Bonjour et bienvenue dans Venu d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Nawal Alamouchi et cette semaine, je me suis entretenue avec Rachid Azizi, ancien commandant divisionnaire de police. Rachid est issu d'une famille de l'immigration tunisienne et algérienne. Il a grandi en France avec cette idée presque impossible, entrer dans la police française. Il y fera pourtant toute sa carrière, jusqu'à atteindre les plus hauts grades. Mais que signifie le fait de s'appeler Rachid et de porter l'uniforme, de naviguer entre deux cultures, mais aussi de trouver sa place dans une institution qui ne vous attend pas forcément? Aujourd'hui, il raconte ce parcours dans son livre « 1 sur 1 million » publié aux éditions L'Harmattan, où il revient sans détour sur plus de 40 ans de service et sur les coulisses du métier.
Sur un million, c'est mon histoire et plus exactement, c'est le titre que m'a proposé mon père à l'époque où on lui apprenait que je souhaitais rentrer dans la police et il avait répondu spontanément avec son vocabulaire à lui. En fait, il a peu de chance puisqu'il n'en prenne que 1 sur 1 million. Sous-entendu que je n'avais selon lui qu'une chance sur 1 million. L'objet de ce livre, bien sûr, c'est de raconter au travers d'anecdotes, de chroniques, de situations vécues, dans des situations parfois dramatiques, parfois drôles, qui interrogent sur notre propre vécu. C'est de pouvoir avoir un regard croisé sur mon regard d'aujourd'hui, celui que j'avais de l'époque. C'est pas forcément de la nostalgie, mais aussi de comprendre comment on peut évoluer dans un milieu qui n'était pas forcément fait pour des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui avaient une origine issue de l'Afrique du Nord.
Et justement, c'était comment de s'appeler Rachid et travailler au sein de la police ?
Alors moi, Rachid, j'ai ce prénom-là depuis que je suis né, donc pour moi, ça ne posait pas de problème. Mais tout d'un coup, quand il vient se confronter à une institution qui n'a pas peu de Rachid, j'ai bien compris que ça interpellait. Mais je n'ai pas senti forcément une agressivité ou des tensions, simplement une sorte de sentiment, tiens, quelqu'un dont on n'a pas l'habitude forcément de rencontrer. Je vous parle de ça, les années 1980, hein, donc 1983. Donc vous voyez, ça remonte à quelques années.
Oui, donc il y avait encore moins de Rachid qu'aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui, il y a peut-être pas forcément des Rachid, mais beaucoup plus de gens avec des prénoms d'origine maghrébine. Mais ça faisait partie du décor, mais j'étais un peu le fameux 1 sur 1 million. Cette vision un petit peu exceptionnelle, parce qu'il y avait très peu de gens qui avaient décidé de s'orienter dans cette voie. Et moi, j'ai décidé de prendre cette voie parce que c'est une porte qui m'a été ouverte et j'avais envie de connaître et d'évoluer dans cette institution.
Comment vous l'avez vécu ?
Quoi donc ?
Le fait aussi de pouvoir faire face à des comportements racistes.
Oui. Bon, il y en a eu aussi, mais il y a eu des gens aussi qui m'ont apprécié parce que j'avais de l'altérité, comme on dit. Mais je me suis toujours interdit de tomber dans la victimisation. C'est-à-dire que la victimisation, c'est, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être victime, mais on n'a pas le droit de revendiquer son statut de victime, encore plus aujourd'hui qu'hier peut-être. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément quelque chose qui se faisait. Donc je crois que j'étais capable de capter dans le regard des uns et des autres peut-être parfois une animosité ou peut-être une sorte de rejet ou le contraire d'ailleurs, mais j'en faisais plus une force qu'autre chose. C'est-à-dire, je me suis dit, bon bah, si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave, ou si vous m'aimez, bah, écoutez, c'est formidable, mais peut-être à moi de vous prouver que je suis finalement quelqu'un de normal et avec qui d'ailleurs j'avais tous les codes aussi. J'avais tous les codes, enfin moi je suis né en France, j'ai toujours vécu en France. Donc, je n'étais pas quelqu'un qui venait de l'extérieur. Simplement, j'avais un nom, peut-être un physique aussi, et qui pouvait renvoyer à cette idée d'appartenance à une communauté. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu plutôt avec lucidité, tout en me disant, nous verrons et nous agirons en fonction.
Et c'est quoi qui vous a donné envie de rentrer dans la police ?
Je crois qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. C'est cette idée que l'orientation qui m'était offerte à moi à l'époque n'était pas celle que j'avais forcément voulu faire, parce qu'elle m'avait été plus ou moins imposée.
On vous a imposé quoi ?
Oui, de faire des études dans le domaine technique, dans le domaine technologique, pardon. Et ce n'était pas forcément ce milieu-là que je voulais. Et tout d'un coup, cette opportunité qui s'est présentée au travers d'un journal qui était posé sur un bureau, et je l'ai feuilleté, j'ai vu cette annonce, comment entrer dans la police, et je me suis dit, bah, tiens, voilà. Et en tirant le fil, finalement, on finit par s'inscrire, on finit par présenter le concours, et on finit par rentrer. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, on est encore très jeune, puisque j'étais encore mineur. J'étais le plus jeune fonctionnaire de police de France à l'époque.
Et donc, vous êtes entré par la petite porte ?
Oui.
Vous avez fini au gradé ?
En 41 ans de maison, comme on dit, bah oui, je suis rentré par la petite porte, j'ai commencé administratif, ensuite j'ai été gardien de la paix, brigadier, instructeur en droit. J'ai réussi les deux concours d'inspecteur de police à l'époque et d'officier de paix, et ça m'a permis d'intégrer la première promotion des officiers de police. Et puis après, bah, j'ai gravi les grades en fonction de mes affectations.
Et vous avez atteint le plus haut?
Oui, alors le plus haut niveau du corps des officiers, effectivement, commandant divisionnaire.
Est-ce que vous vouliez justement atteindre ce grade ou pas au début lorsque vous avez débuté?
Vraiment pas. Il y avait quelque chose que je n'imaginais pas. Mais en fait, votre question est très intéressante parce que je me souviens toujours, cette fois où j'étais gardien de la paix dans le 18e arrondissement, où un commandant de police, qui était sur la fin d'ailleurs, qui nous avait fait cette réflexion à nous tous qui étions à l'appel, en nous disant, bon, on est bien d'accord, vous êtes tous amenés à devenir des gradés. Et cette idée qui a commencé à germer, a produit ses effets et je suis devenu d'ailleurs brigadier, gradé. Ensuite, j'ai carrément décidé de passer deux concours d'inspecteur et d'officier de paix. Je pense que s'il ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas intégré. Peut-être que je l'aurais intégré plus tard, mais sa parole a été plutôt bienveillante.
Et donc, quand est-ce que vous avez quitté la police?
Alors, j'ai quitté la police au 1er janvier 2025, donc ça fait déjà pratiquement un an.
Ça vous manque?
Non, ça ne me manque pas, bizarrement. Je n'ai pas forcément cette nostalgie. Je peux avoir la nostalgie d'un événement qui s'est produit, de relations que j'ai pu nouer avec des personnes, avec des plaignants notamment. J'ai beaucoup fréquenté le milieu où vraiment vous voyez les coulisses de la société. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai sous-titré mon livre, Chronique d'un policier dans les coulisses de la société, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose où vous rentrez dans l'intimité des gens, mais sans vous imposer. Alors parfois vous vous imposez parce que vous êtes policier, effectivement, vous ne demandez pas toujours l'avis des gens pour rentrer chez eux. Mais ça a été pour moi aussi de découvrir beaucoup plus d'humanité qu'autre chose, au-delà du fait commis, du meurtre, des vols, des escroqueries.
Parce que vous voyez aussi les pires choses de
oui,
la société.
Oui, vraiment les pires choses, des tragédies, des situations, bien sûr la mort, les agressions sexuelles, beaucoup d'agressions sexuelles, de viols, le terrorisme aussi. Je suis intervenu pas mal de fois sur des terrains de terrorisme. Mais si vous voulez, ça m'a permis à moi de toujours me dire, et j'avais, je dirais presque une sorte de philosophie, de modus operandi dans ma vision des choses, c'est que je me disais, voilà exactement ce que je ne veux pas vivre dans ma vie privée. Je faisais en sorte d'habiter dans des endroits où on ne me voit pas, j'étais plutôt très discret, et surtout je ne disais jamais que j'étais policier. Non pas par honte, pas du tout, mais parce que c'était inutile, parce que les quelques expériences que j'avais eues au préalable, c'était que les gens, tout d'un coup, vous deveniez un élément intéressant.
C'est une manière de vous préserver?
Oui, une manière de me préserver, de préserver mes proches aussi, mais c'est surtout un moyen de se dire, je ne veux pas être seulement un policier, je suis autre chose. Donc me définir au travers de ma profession, je trouvais ça assez réducteur. Quand je voyais quelques collègues qui, eux, au contraire, étaient plutôt dans la revendication. Voilà. Et c'est peut-être le fait aussi que je sois rentré très jeune qui m'a permis d'assouvir cette soif-là. Et au final, j'avais plus besoin de ça. Je voulais me construire aussi d'autres identités que le temps m'a proposées.
Est-ce que vous trouvez que les gens changent lorsque vous leur dites que vous êtes policier, notamment?
Oh oui, oui. Et ça, j'en veux pas du tout. Il n'y a pas de problème. Je pense que moi-même, j'aurais le même regard si je rencontrais quelqu'un qui fait une profession qui est assez énigmatique. À l'époque, certainement moins, mais aujourd'hui, c'était surtout autour des procès-verbaux, voilà, des contraventions. Tu peux me faire sauter une contravention? C'est pas tout à fait mon boulot. Ou alors, vous étiez là un peu pour répondre à tous les problèmes. Alors, moi, c'est plutôt quelque chose qui me plaît, vraiment, d'apporter mon aide, parce que ça a toujours animé ma vie, je dirais. Mais c'était aussi un moyen de se préserver. De tout d'un coup, que les gens vous portent une attention uniquement parce que vous représentez une institution dans lequel il y a toujours un sujet à relever. Hein. D'ailleurs, je le vois encore aujourd'hui quand les gens me parlent. Alors moi, j'ai eu tel événement avec un policier. Vous ne diriez pas ça avec un ingénieur à EDF ou un agent d'Air France. Donc, il y a quelque chose qui est assez, encore une fois, assez énigmatique dans le milieu de la police, de ce qu'elle renvoie en termes d'impact sur le collectif.
La police interroge, elle est aussi victime d'une image.
Oui.
On parle de racisme institutionnel,
oui.
On parle d'élite faciès.
Oui, alors moi je n'ai pas du tout de problème déjà de parler de ça, franchement. La question sur les contrôles au faciès, d'accord? C'est-à-dire, en gros, si je devais définir, le fait d'abuser d'un pouvoir qui consiste à arrêter des personnes et leur demander de présenter leur carte d'identité.
En fonction de leurs origines.
Et tout ça parce qu'elle a été reconnue comme étant supposément une personne d'origine étrangère. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle faciès. Parce que je me suis vraiment intéressé à cette question. D'ailleurs, dans mon livre, l'un des chapitres qui s'appelle « Contrôle à Montparnasse », je fais justement cette expérience-là où je vois mes collègues qui contrôlent toujours une même catégorie de personnes, d'accord ? Des jeunes d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne. Et je m'en amuse sur le moment, et je vous parle de ça, ça remonte à très longtemps, et je décide de faire un testing, c'est-à-dire je décide moi-même de faire un contrôle pour voir leur réaction. Et je décide de contrôler des personnes âgées, blanches, 70, 80 ans quand même, hein, on est quand même dans le métro, et je vois tout de suite mes collègues en leur demandant « Est-ce que vous avez de la drogue sur vous ? Est-ce que vous avez des armes ? Est-ce que vous trafiquez ?» Mais tout ça, je suis dans la provocation. Et je vois mes collègues qui sont vraiment hors d'eux en disant « C'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait ?» Ils viennent me voir, mais au bout de quelques minutes. « Qu'est-ce que tu fais ? Ah bon ? Bah oui, tu contrôles. » Et quelques instants après, je refais le même testing en recontrôlant des personnes âgées, mais avec des Noirs et des Arabes. Ils ont la même réaction. Ce qui me fait dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui relève du racisme au sens hiérarchie des races, hein, au sens hostilité envers une catégorie. C'est, moi, j'appelle ça plutôt du profilage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous finissez par avoir une sorte d'image type de ce que peut être un délinquant. Et c'est à partir de ce moment où vous intégrez ça dans le cadre d'un contrôle d'identité. Vous décidez de contrôler parce que, manifestement, cette personne-là présente des caractéristiques, en tout cas intégrées volontairement ou involontairement, dans leur esprit. Ce que ça me fait dire, finalement, au travers du testing que j'avais mis en place, je vous parle de ça dans les années 80, encore une fois, 87, je crois, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas forcément une question de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a partout. Et je ne suis pas en train de minimiser le fait qu'il y ait du racisme dans la police. C'est inacceptable. Et on ne peut pas me dire qu'il y a quelques brebis galeuses. Non, quelques brebis galeuses n'ont rien à faire dans la police. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais ce que ça dit, au-delà de cette question du contrôle d'identité et du profilage, c'est qu'en fin de compte, c'est motivé par cette idée, cette représentation qu'on se fait du délinquant notoire. Et en fait, qui va plus en général conduire aux policiers de contrôler peut-être une certaine catégorie, ça va être effectivement certainement la couleur de la peau, probablement au travers d'images vues à la télé, aux médias, etc. Mais aussi l'âge et aussi la tenue vestimentaire.
Est-ce que vous en parlez de l'intérieur ?
Oui,
de ce problème-là.
Moi, j'en ai eu aucun problème. J'ai même été monsieur de discrimination de la police nationale, puisque j'étais en détachement au sein de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et oui, c'est des vrais sujets dont on parle. Alors, vous avez, évidemment, vous aurez toujours une catégorie de gens qui vont être dans le déni, hein, qui vont dire, on contrôle des gens parce qu'ils ont un comportement, parce que... Évidemment, moi je crois que c'est aussi une question d'éducation.
Il y a un travail de pédagogie aussi à faire.
Faire du policier aujourd'hui, quelqu'un, un acteur, et quelqu'un qui doit être aussi responsable de ses actes. Et non pas cette idée qu'on pourrait se faire ou que beaucoup de gens se font sur le fait qu'on se couvre entre soi parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des remontées. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport aux années 80, ça c'est clair, mais en même temps 40 ans sont passés. Mais il reste encore quelques écueils encore à traiter. Et je crois que c'est en reconnaissant les choses qui ne vont pas qu'on permet d'évoluer. Ce n'est pas en les niant, ça n'a pas de sens.
Est-ce que vous en avez souffert justement de cette image que peut subir la police aujourd'hui ?
Je ne souffre pas de l'image de la police. Je ne suis pas l'avocat de la police. J'ai été un fonctionnaire de police.
Vous en faisiez partie ?
J'en faisais partie, mais quand quelqu'un agit mal, quand un policier agit mal, je ne vais pas prendre sa défense d'emblée au prétexte que le corporatisme m'oblige d'agir ainsi. Non, chacun doit assumer sa responsabilité. Sur la question de l'image, moi je crois que, vous savez, contrairement à l'idée reçue, je vous disais tout à l'heure que je ne disais pas que j'étais policier, mais parfois les gens finissaient par l'apprendre, ou dans le contexte, je finissais par le dire quand je nouais des relations. Les gens ne sont pas si hostiles que ça. Moi, je trouve que les gens sont plutôt légalistes. Je ne suis pas très certain par les statistiques qui disent que 82% des Français plébiscitent sa police. Ça me paraît quand même un peu beaucoup, mais bon, ce sont des statistiques, donc je les respecte en tant que telles. Mais je pense qu'il y a encore des choses à régler, mais... Globalement, je trouve que les choses vont plutôt dans le bon sens, en tout cas.
On va revenir un peu plus sur votre histoire personnelle. Le titre de votre livre, donc 1 sur 1 million, c'est une phrase que vous a dit votre père.
Oui.
Est-ce que votre père, il vous a soutenu dans votre carrière professionnelle lorsque vous lui avez annoncé que vous vouliez être policier, par exemple ?
Non, alors on ne peut pas dire qu'il m'ait soutenu, vraiment pas. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il m'ait découragé. Mais c'était pour lui tellement inenvisageable. C'était mon choix, bon. En gros, laissons le faire, on verra bien s'il se plante ou pas. Et puis, ma foi, pourquoi pas, ce serait drôle. Surtout qu'il n'y avait pas de policiers dans la famille. Hein. Puis, il y avait très peu de policiers des Rachid dans la police française. Mais par contre, ce que j'ai perçu et ce que j'ai compris même par la suite, c'est qu'il était particulièrement fier. Ouais. C'était même un sujet de discussion qu'il aimait aborder. Alors, pas directement avec moi, parce qu'il était, il y avait peut-être une sorte de gêne qui s'était installée entre nous, mais vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis des gens, il était plutôt particulièrement fier. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait touché. C'est aussi, bon, il n'est plus de ce monde maintenant, mais c'est aussi ça que j'ai aussi voulu raconter. C'est-à-dire, je lui rends hommage par le titre, parce que ce n'est pas mon expression à moi. Il ne m'a pas encouragé, mais d'une certaine façon, son regard, ses paroles ont été une sorte d'encouragement indirect.
Parce que votre père, il travaillait dans quoi ?
Oh, c'était un chauffeur-livreur dans une maison qui fabriquait, je crois, des mobiliers. Et il avait un travail très honnête. Il rentrait à la maison avec sa tenue toute orange. D'ailleurs, on ne peut pas le louper, donc on le voyait arriver avec son camion. Quand il repartait en Tunisie, parce qu'il était du sud tunisien, à côté de Gabès, là, il mettait la cravate. C'est, je crois, que la seule fois où je voyais mettre une cravate alors qu'il faisait 42 degrés. Je trouvais ça très touchant. C'était quelqu'un qui était déraciné, mais qui avait besoin de retrouver son pays natal. Et puis moi, j'étais une sorte de Français, mais qui avait des origines tunisiennes et qui allait aussi se ressourcer. Ouais, j'étais pour là-bas très français et je n'avais pas vraiment vécu là-bas, quoi. J'y allais que pendant les vacances.
Et vous, ce besoin d'aller rechercher vos racines, est-ce que vous le ressentez encore actuellement ?
Oui, c'est quelque chose qui a toujours été présent en moi. Moi, je suis très intéressé par l'individu. L'individu m'intéresse beaucoup. Ses origines, la trajectoire, l'itinéraire d'une personne, d'un homme, d'une femme, peu importe. Je suis très intéressé et parfois je me dédouble en essayant de comprendre aussi qu'est-ce qui me conduit à aller chercher ces racines-là. Je ne sais pas, c'est de parler avec une tante tunisienne, avec un oncle, avec un cousin, avec une culture qui n'est pas forcément la mienne, avec un humour débordant. Jamais on m'a fait autant rire que l'humour maghrébin, avec bien sûr la nourriture, avec l'hospitalité, avec tout ce qui va avec, ponctué aussi par la religion qui est assez présente. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Pour moi, mes origines, c'est une richesse. Ça a toujours été, mais je le revendique encore plus aujourd'hui, hein, soyons clairs.
Mais vous avez quand même ce sentiment d'être trop français là-bas, trop arabe ici ?
Oui, mais trop français là-bas dans le sens où c'est ma langue.
Vous savez,
c'est à partir de... Oui, mais au-delà même des papiers, c'est à partir de la langue. Quand vous parlez l'arabe comme je le parle moi, ça pique les yeux. Hein. J'avais l'arabe, un mélange de barbès et de beaucoup d'improvisation. Puis on termine la phrase avec quelques mots français. Comme ça, on s'en sort bien. Et puis en France, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis jamais tombé dans la victimisation de celui qui ne m'aime pas, surtout pour de mauvaises raisons, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, peut-être que cette personne a un problème avec elle-même. Mais je crois que globalement, j'ai aussi découvert des gens qui pouvaient être méfiants de moi, notamment au travers de mes rencontres, de mes fréquentations, mais qui ensuite, finalement, quand ça marche bien, finalement, la chose se fait bien. Et finalement, je crois que c'est aussi une question de rapport, de relation, parfois ce que vous dégagez. C'est aussi ce que j'ai appris.
On vous sent très serein, en tout cas.
Je le suis. Je le suis parce que je suis très heureux de vivre et je suis très heureux d'être dans ce pays. Je suis très heureux d'avoir des origines tunisiennes. Je rappelle que j'ai des origines algériennes aussi, il faudrait peut-être aussi le rappeler, même si je ne connais pas du tout l'Algérie. Pour moi, ça, c'est une richesse. Je ne peux pas comparer les uns les autres. Moi, ce que je retrouve en France, je ne le retrouve pas en Tunisie. Ce que je trouve en Tunisie, je ne le retrouve pas au Maroc. Mais moi, je me nourris de ça. Et c'est vrai, quand on dit que les voyages forment, certainement, c'est très formateur. Parce que vous découvrez des cultures et vous vous enrichissez.
Et ce sera ma dernière question. Si vous deviez dire un mot, ou plusieurs mots même, au jeune Rachid Azizi, vous lui diriez quoi ?
Je lui dirais, tiens le cap, continue comme ça, vise un objectif. Ne lâche pas l'affaire. Parfois, il va falloir prendre des itinéraires bis, c'est-à-dire prendre des voies parallèles. Peu importe ce qu'on te dit, ce qu'on rit de toi, qu'on te dit que t'es pas beau, que t'es pas... Franchement, c'est la honte d'être entré dans la police, c'est la honte d'être... Oui, d'accord. Franchement, à chaque fois que j'ai fait des choses, je les ai faites avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, je me dis, t'as fait le bon choix. Même un sur un million, je suis peut-être ce un, justement, sur un million.
Aucun regret.
Aucun regret.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Venu d'Orient avec Rachid Azizi, ancien commandant divisionnaire de police. C'était Nawal El Amouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.